Monsieur Jamais, bonjour.
Oui, bonjour Stéphane.
Vous avez dans la jeune soixantaine, j'imagine, pas loin de 63-64.
Un petit peu plus, si vous le voulez bien.
Ah bon? Avez-vous l'âge de la Radio-Canada International, de 70 ans?
Pas tout à fait. Radio-Canada International est né précisément 4 ans avant moi.
4 ans avant vous. Donc vous êtes né en 1949.
Vite.
À partir de quelle année vous commencez à écouter Radio-Canada International?
À partir de quelle année? Ben écoutez, à partir de 1976, parce que, bon là, j'avais terminé mes études depuis déjà, oui, 4 ans, mais le déclic, ça a été l'achat d'un récepteur qui me permettait d'écouter les ondes courtes, et puis aussi les Jeux Olympiques de Montréal. J'avais découvert ces voix canadiennes qui nous venaient d'outre-Atlantique et qui nous parlaient évidemment du Canada, mais des Jeux Olympiques. Mmh. Et si je dois vous avouer, pour être très sincère, que j'ai eu un petit blanc dans les écoutes quand mes enfants sont nés. J'étais quand même très occupé. Mmh. Et puis, j'ai recommencé quelques années plus tard, fin des années 80. Là, j'ai acheté nouveaux récepteurs beaucoup plus performants et d'ailleurs vous-même de votre côté, parce que je connais un petit peu l'histoire de Radio-Canada International, au moment de la guerre froide et tout, vous aviez nettement renforcé la puissance de vos émetteurs, le signal était excellent et parfois même vous utilisiez des émissions depuis les stations de la BBC.
Il y a eu aussi notre capacité de nous inscrire sur les programmes satellites pour arroser l'Europe notamment et puis le Moyen-Orient.
Oui, mais là, Stéphane, je veux pas vous décevoir, mais si j'ai bien compris, le satellite a bien fonctionné, fonctionne toujours très bien, Sirius, par exemple, sur l'Amérique du Nord, peut-être en Asie, mais en Europe, l'écoute radio par satellite, ça n'a pas vraiment fonctionné.
Ah, d'accord. Donc, on a traversé des périodes de technologie, d'essais, et puis il y a eu des ratés pour tout le monde, de part et d'autre, des deux côtés de l'océan. Mais aujourd'hui, on en est maintenant à une phase nouvelle où l'Internet est au cœur de la communication.
Alors, vous dites l'Internet, oui, c'est vrai, ça, c'est indiscutable. Peut-être qu'on pourrait avoir encore une vision plus large. J'ai parlé du numérique. J'ai retrouvé, quand vous aviez des difficultés déjà, à la fin des années, ou dans le milieu des années 90, j'avais écrit à l'honorable Sheila Copps, qui était quand même vice-première ministre du Canada. Vous nous y aviez sérieusement incité, parce que Radio-Canada International était menacé.
Oui, de fermeture.
Alors, vous voyez, j'ai retenu le nom de cette dame parce que, effectivement, j'ai marqué un peu un temps d'arrêt en me disant est-ce que je dois me permettre d'écrire à la vice-première ministre d'un grand pays, comme ça, pour lui dire que moi, petit auditeur perdu dans l'Hexagone, au-delà de l'Atlantique, j'écoutais avec intérêt une station de radio qui existait à l'époque et qui avait 50 ans. Mmh. Alors, je sais que nous sommes plusieurs à l'avoir fait. Nous avons sauvé une première fois Radio-Canada International dans sa version, je dirais, d'origine, mais quand même améliorée au fil du temps. Nous avons réédité l'expérience en écrivant à votre directeur, là j'ai oublié le nom qu'il me pardonne, au début des années 2000, parce qu'une nouvelle fois, il y avait des coups de butoir dans la porte de Radio-Canada International. Et puis, je crois que c'est en 2006, hein, que là, il y a eu des réductions drastiques du budget. Vous avez même démonté, si j'ai bien compris, les émetteurs de Sacqueville.
Ou en fait, 2012. Hein.
Radio-Canada International, c'est une web radio, c'est un site web, c'est du numérique à 100%.
Voilà. Mais il faut être précis, là, 2012, c'est vraiment l'année où on tourne le coin carré, si vous voulez, où on abandonne la transmission onde courte, les émetteurs, tout ça, on met de côté les vieux appareils pour se diriger vers, pour utiliser votre expression, le numérique.
Oui, voilà.
Et,
La radio, si vous voulez, connaît toujours une mutation extrêmement importante parce que vous avez connu, et ça a joué sur vos investissements, une période où vous étiez réparti, ou diffusé plutôt, sur de nombreuses plateformes. Les ondes en voie de diminution, hein, et puis le web, mais il y avait aussi les stations partenaires FM, par exemple, au niveau de l'Afrique. Et puis actuellement, avec l'Internet, on vous écoute sur des smartphones, voire sur des tablettes, parfois sur des ordinateurs. Alors je crois que les jeunes actuellement, il y en a peut-être qui ne savent même pas ce que c'est qu'un récepteur de radio parce qu'ils n'ont qu'un smartphone en poche et c'est l'outil à tout faire.
Oui, c'est vrai, c'est que la radio, c'est plus un mot très à la mode, le mot radio.
Oui. Ouf. Bon, alors c'est vrai que moi aussi, si vous voulez, j'en ai goûté, non pas du smartphone, parce que, mais j'ai une tablette et effectivement, bon, bah oui,
Ah ben, oui.
c'est très intéressant de pouvoir aller visiter votre site, d'écouter le segment hebdomadaire de 30 minutes, si j'en trouve le temps, soyons francs, et puis voilà quoi. Et on peut passer d'une station à l'autre et faire le tour du monde comme ça, en allant de site web en site web.
Dans un confort d'écoute meilleur, enfin
Ah ben
mieux.
avec quel confort d'écoute qui est celui du MP3, bon, voilà.
Vous n'êtes pas mélomane, mais presque.
Non, 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 je ne suis pas mélomane, mais le MP3, c'est quand même une réduction, une compression du son qui n'est pas forcément toujours agréable. Cela dit, moi, ce que je regrette, c'est que le numérique, au niveau de la radiodiffusion, et même pour les longues distances, donc soyons clairs, le DRM, le Digital Radio Mondial, ne s'impose pas plus que ça dans les pays, on va dire, occidentaux, donc bien entendu, Europe, Amérique du Nord. Alors quand vous pensez, parce que je suis ça avec intérêt, c'est un pays comme l'Inde qui a décidé de basculer tout son réseau de radiodiffusion en DRM sous les 2 ans qui viennent.
Alors qu'il y a 10 ans, ils n'avaient même pas le téléphone cellulaire.
Exactement, alors qu'il y a 10 ans, ils n'avaient même pas le téléphone cellulaire et qu'ils ont fait un pari, si vous voulez, de convertir leurs émetteurs de modulation d'amplitude en numérique, et ils ont pris le pari de construire les récepteurs, les milliers, les millions de récepteurs dont ils auront besoin.
Et qu'est-ce que ça va changer pour eux, ça, comparé à la situation présentement, en France ou même au Canada?
Dans notre réflexion sur la radio, ça va changer du côté du diffuseur. Parce qu'évidemment, tout sera produit en numérique. Et je vais vous donner une petite anecdote. Il m'arrive de capter, quand les conditions sont très bonnes, l'émetteur numérique de Kanpur, qui est à côté de New Delhi, qui est normalement censé ne couvrir que l'Inde. Eh bien, si c'est en plein été, vous écoutez parfois le bruit du ventilateur ou le ronronnement de l'électronique, tellement la qualité de la transmission est bonne. Le numérique à ce niveau-là est meilleur que le MP3. Moi, je ne suis pas ingénieur en électronique, mais on m'a confirmé qu'on faisait une compression du signal en ce qu'on appelle AAC, c'est supérieur au MP3.
Une chance que vous n'êtes pas un spécialiste.
Voilà, donc si vous voulez, du côté du diffuseur, il y a bien longtemps que vous produisez en numérique, à Radio-Canada bien évidemment, hein, vous investissez comme ça les différentes plateformes de diffusion, hein, et du côté des auditeurs, eh bien, je pense qu'on a là une meilleure qualité d'écoute, une disponibilité de tous les instants, les podcasts, et puis nous avons aussi donc le smartphone, la tablette, voire l'ordinateur, et ça, effectivement, c'est une évolution énorme de la radio parce
Oui.
que elle est présente partout lorsqu'on en a besoin aujourd'hui.
C'est sûr qu'on n'est plus sur les ondes courtes en Afrique, par exemple. C'est sûr que ça, on
Oui.
a perdu ça. Mais pour ce qui est de notre site web, les chiffres sont tout à fait saisissants. Depuis, on a procédé à la refonte complète du site web de Radio-Canada International après l'année des grandes compressions. Donc en 2013, il y a à peine 2 ans, même pas, c'était au mois d'avril 2013 qu'on a lancé notre nouveau site. On a triplé le trafic depuis. Triplé.
C'est extraordinaire. Moi, si vous me permettez une petite parenthèse que j'ai refermée très rapidement, à la grande surprise de vos confrères de Radio France, France Culture, qui n'avait qu'un million d'auditeurs, en a 2 millions aujourd'hui, et c'est la radio la plus podcastée de France.
Donc, il y a moyen
Oui,
d'étendre
bien
sa
sûr.
couverture.
Pourquoi? Parce que voilà une station culturelle qui a des émissions littéraires, théâtre, musicales, même philosophie, scientifique, etc. Et ceux qui viennent piocher dans les podcasts sont des étudiants, bien souvent.
Oui, alors je sens ici un nouveau slogan. Étendez votre culture et votre couverture grâce à. Il manque un mot ici, quelque part. Enfin.
Oui, ben écoutez, à partir du moment où vous avez ces archives et vous avez les moyens de les mettre en ligne, la mémoire informatique coûtant de moins en moins cher, on peut garder pendant des années des émissions en ligne.
Laissez-moi vous poser une question très difficile. C'est parce que la question est difficile, vous avez peut-être une réponse facile, mais moi j'ai une question difficile. S'il y a une multiplication des moyens, enfin des pour savoir ce qui se passe au Canada, pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de Radio-Canada International? À quoi ça sert aujourd'hui, alors qu'on est, on est rendu à l'autre bout du monde, sur l'Internet en quelques secondes, en millisecondes maintenant?
Oui, alors là, déjà, première remarque, Stéphane, et je vous en félicite. Ce qui me plaît beaucoup dans la question, elle est difficile, je suis d'accord. On se pose la même, nous, radio-écouteurs. Y aura-t-il encore des stations internationales dans quelques années? Et pourquoi faire? Hein? Eh bien, je pense déjà que c'est un point de vue que vous véhiculez, qui est celui du Canada. Vous défendez votre approche du monde, votre vision du monde, votre évolution du monde, comment vous souhaitez que les choses se passent. Je me doute bien que les Canadiens ont un point de vue, peut-être même des points de vue, parce qu'il y a déjà le monde anglophone et le monde francophone chez vous, mais je ne pense pas qu'il y ait convergence totale. Mais si vous voulez, moi, le gros intérêt, même si oui, les zones courtes, je les écoute moins parce que l'offre est moindre, mais je n'ai pas baissé la garde, je n'ai pas eu de perte d'intérêt pour aller écouter soit la NHK, soit le Canada, soit Radio France Internationale ou la BBC, parce que j'y trouve des analyses, des approches du monde, des axes de réflexion qui sont extrêmement intéressants. Ce serait suicidaire, et puis qu'il y ait une seule approche. C'est la richesse, c'est la diversité.
Mais je trouve que vous avez des idées plein d'élan pour quelqu'un qui a pratiquement 70 ans. Bon, franchement, là...
Écoutez, vous êtes gentil. Mais vous savez bien qu'aujourd'hui, eh ben, écoutez, c'est jusqu'à 77 ans. Ça, c'était la devise d'une BD belge, Spirou, ouais. De 7 à 77 ans.
Là, il faut que je précise que j'ai dit ça avec le sourire, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui... Avec le MP3, on n'entend pas les nuances. Hein? C'est ça. Écoutez, Paul, ce fut un très beau plaisir de vous parler, mais avant que vous nous quittiez, puisque c'est mon anniversaire, c'est le vôtre, c'est celui de tous ceux qui écoutent en ce moment, qui ont profité du signal de Radio-Canada International, des informations depuis un an, jusqu'à 77 ans, presque. Dites-moi, un grand souvenir de Radio-Canada International pour vous, une fois où on vous a fait peut-être rire complètement, vous êtes tombé en dessous de la table, je ne sais pas, quelque chose.
Grand souvenir, et je ne dis pas ça pour vous flatter. Ça a été quand même un des fleurons de votre station, ça a été le Courrier mondial. Alors, un grand sourire, oui, parce que parfois, il y avait des interviews qui étaient tout à fait, on va dire, un petit peu surréalistes, hein, sur les sujets qui étaient abordés, mais je crois que je ne suis pas le seul. Hein, on a rarement trouvé une émission aussi dynamique et participative de l'auditoire sur une chaîne internationale.
Quand vous parlez de surréalisme, vous faites allusion à quoi? Je trouve ça...
Je sais pas, parfois, si vous voulez, quand on écoutait nos collègues, nos amis écouteurs africains, les conditions dans lesquelles ils avaient du mal à vous capter, pour nous, si vous voulez, sans... C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, bien évidemment, mais on se disait, ils sont quand même extrêmement intéressés, extrêmement courageux, extrêmement entreprenants pour avoir toutes les conditions réunies pour écouter une station internationale. Quoi.
Ah,
donc ça reflétait vraiment une envie de s'évader de leur quotidien et de penser à autre chose et de vivre une autre expérience.
Oui. Et si j'avais pris un verre là avec vous ce soir, là, je serais probablement en train de pleurer.
Oui.
Tellement c'est déchirant, ces histoires.
Ça, c'est vrai que ça a été une perte au niveau radiophonique de ces échanges, parce que c'était toujours un bonheur de se brancher le dimanche soir sur le Courrier mondial. Là, j'avoue que vous ayez changé de plateforme, que vous ayez changé de moyen de diffusion, de technique, etc., je veux bien, mais qu'on ait passé à la trappe une émission comme celle-là, ça, on est toujours un certain nombre à se demander pourquoi. Mais cela dit, peut-être que la direction a ses raisons... qu'on ne comprend pas.
Vous savez, j'aime ça quand mes invités nous laissent sur une question. Ça me change. Merci beaucoup, Paul.
Mais écoutez, je vous en prie, Stéphane, c'était de nouveau un plaisir de discuter avec vous.